RCF.
Et à 7h30, le retour de l'information avec Jean-Baptiste Labeur. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous. La polémique persiste sur les propos du ministre du Logement. Il veut s'attaquer aux locataires trop riches, entre guillemets, dans les HLM. Une première étude sur l'impact sanitaire de la pollution au PFAS démarre près de Lyon. On vous en parle dans ce journal. L'inquiétude au Proche-Orient avec les menaces d'attaque de l'Iran sur Israël. Les évêques français étaient eux en Égypte cette semaine pour une visite de soutien aux chrétiens du pays.
Mais tout d'abord, la mort du prêtre franco-canadien Johannes Rivoire.
On l'a appris hier soir par sa congrégation des Oblates de Marie Immaculée. Johannes Rivoire est décédé jeudi en France à 90 ans. Il était accusé d'agression sexuelle sur au moins 6 jeunes Inuits dans le Grand Nord canadien dans les années 60 et 70. La justice canadienne le réclamait en vain depuis des années. Il était vu au Canada comme le symbole de l'impunité des agresseurs sexuels au sein de l'Église catholique. Sa communauté regrette qu'il n'ait pas pu être disponible pour être jugé et qu'il n'ait pas été non plus démis de ses fonctions de prêtre.
La petite phrase du ministre du Logement n'est pas passée inaperçue, Jean-Baptiste, et continue de faire des vagues.
Mais oui, Guillaume Casbarian veut s'attaquer aux locataires de logements sociaux devenus trop riches pour prétendre y rester, selon lui. Dans son viseur, les personnes dont le niveau de revenu a évolué au point de dépasser les plafonds d'accès aux HLM. Selon le ministre, cela concernerait 8% des locataires. Cette sortie a été très mal accueillie par les acteurs du logement social et les associations. Étienne Pépin.
C'est d'abord la question de la mixité sociale qui interroge les acteurs du logement. Le plan du ministre reviendrait à renforcer la ghettoïsation des pauvres, selon le président de la Confédération nationale du logement, Eddy Jacquemart.
Si on fait ce que dit le ministre Casbarian, eh bien on va se retrouver avec des ghettos de plus en plus de pauvres, et c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite de la mixité sociale.
De plus, l'Union sociale pour l'habitat rappelle au ministre qu'elle mène des contrôles de revenus chaque année pour vérifier que les locataires sont encore dans leurs droits. En cas de revenus trop élevés, les locataires paient un surloyer, souligne Eddy Jacquemart.
La loi Elan, elle prévoit que tous les 3 ans, il y ait une révision de la situation des locataires, notamment par le biais de commissions qu'on appelle les Caléol. Et l'augmentation des loyers, elle est prévue avec le surloyer. Donc en fait, M. Casbarian est en train de dire qu'il va faire quelque chose qui existe déjà.
Les associations dénoncent la démagogie du ministre et lui demandent de réellement s'attaquer à la crise du logement social.
Cette annonce de M. Casbarian, elle est très malvenue dans la situation actuelle où on a une crise du logement qu'il faut résoudre, non pas par des effets de communication ou des mesurettes, mais plutôt par des mesures structurelles.
On utilise cette expression « logement à vie » pour faire polémique, alors que le gros sujet aujourd'hui, c'est qu'on ne construit pas assez de logements sociaux, confirme la présidente de l'Union sociale pour l'habitat, Emmanuelle Cosse.
Et près de 2 millions de ménages sont en attente d'un logement social en France. Le gouvernement prévoit un projet de loi. Il devrait être présenté le mois prochain. 4 suspects mis en examen hier pour assassinat après la mort d'un adolescent de 15 ans à Romans-sur-Isère mardi soir. Le jeune garçon avait reçu un coup de couteau mortel lors d'une altercation dans le quartier sensible de la Monnaie.
C'est une première en France. Une étude d'ampleur sur les PFAS a été lancée hier près de Lyon.
Elle doit évaluer l'impact des PFAS sur la santé de 300 riverains de 2 usines à Pierre-Bénite. Ces sites ont massivement rejeté des PFAS durant des années, ces molécules chimiques utilisées dans l'industrie pour leur qualité antiadhésive et imperméable. L'Assemblée nationale a récemment voté une proposition de loi pour en réduire l'utilisation en raison des risques sur l'environnement et surtout sur la santé humaine. Maxime Jean-Jean est épidémiologiste, il est en charge de cette enquête.
Comme beaucoup de composés chimiques, les PFAS peuvent causer une grande variété d'effets sur la santé. Ça va dépendre aussi des circonstances d'exposition, en termes de durée d'exposition, d'intensité, de fréquence, mais aussi certains facteurs qui sont vraiment individuels. L'âge, le sexe, l'état de santé de la personne, les prédispositions génétiques, etc. Et donc, il y a des individus qui sont plus à risque de développer des pathologies en lien avec l'exposition PFAS, mais il y a aussi des groupes de population qui sont plus vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées et puis les femmes enceintes. Donc il y a toute une palette extrêmement large d'effets sanitaires qui vont d'altérations hépatiques à des problèmes, un abaissement de la réponse immunitaire au vaccin, des cancers ou des problèmes de thyroïde.
Des propos recueillis par Charlotte Mongibaud, RCF Lyon. Un label Origine Info sera en place dès cet été, promet la ministre en charge de la consommation, Olivia Grégoire. Plus d'une quarantaine de marques ont accepté, selon elle, de marquer l'origine des ingrédients composant leurs produits. Origine Info fonctionnera un peu comme le Nutri-Score. Il permettra aux consommateurs de savoir quelle est la provenance des ingrédients majoritaires des produits consommés.
7h35, à 2 mois des européennes, Raphaël Glucksmann peut-il être la bonne surprise pour la gauche?
Le candidat du Parti Socialiste et de Place Publique tient un nouveau meeting aujourd'hui à Nantes, dont les sondages, il est crédité de 13%, loin derrière le Rassemblement National, mais pas si loin de la candidate de la majorité présidentielle Valérie Ayer, à 18%. La dynamique de campagne de Glucksmann depuis 2 mois fait de lui le 3e homme du scrutin, Baptiste Madinier.
Même si la dynamique retombe, Raphaël Glucksmann a déjà réussi un exploit, réunir le Parti Socialiste au moins en façade. Cette ascension repose sur le retour de certains électeurs de gauche partis chez Emmanuel Macron ou chez Jean-Luc Mélenchon. Avec Glucksmann, le Parti Socialiste a retrouvé ses deux jambes, explique une note de la Fondation Jean Jaurès qui analyse cette dynamique. Se présentant comme le candidat issu d'une social-démocratie européenne, Glucksmann parvient à se différencier de Macron sur la politique nationale, notamment après la réforme des retraites ou sur des sujets comme les migration ou l'écologie. Le meeting de Nantes doit d'ailleurs ouvrir une longue séquence sur l'urgence climatique. Et il parvient aussi à se différencier de Mélenchon sur les questions internationales. Le leader de Place Publique est plutôt sur la ligne de l'Élysée concernant l'Ukraine par exemple, appelant à la fermeté face à Poutine. Les Insoumis lui reprochent d'ailleurs d'être un va-t-en-guerre ou, je cite, un porte-parole de l'OTAN. Il se différencie également des LFI sur ses positions claires à l'égard du Hamas ou encore sur la question de la Chine, notamment avec son engagement fort sur la cause des Ouïghours.
Toujours à propos des européennes, la justice belge va enquêter sur l'ingérence russe au Parlement européen. Le parquet fédéral a ouvert une enquête pour des soupçons de corruption d'eurodéputés après l'identification par la République tchèque d'un réseau d'influence financé par Moscou.
L'armée israélienne a mené hier de nouveaux raids meurtriers dans la bande de Gaza.
Et le pays est également en alerte en raison des craintes d'une attaque massive de l'Iran. Le Hezbollah a tiré hier plusieurs dizaines de roquettes sur le nord d'Israël sans faire de blessés, affirment les autorités israéliennes. Le Quai d'Orsay, de son côté, recommande aux Français impérativement de ne pas se rendre dans les jours qui viennent en Iran, au Liban, en Israël et dans les territoires palestiniens. Une délégation des évêques de France achève aujourd'hui une visite officielle de 5 jours en Égypte. Avec 10 millions de fidèles, ce pays représente la communauté chrétienne la plus importante du Proche-Orient. 300 000 de ces chrétiens font partie de l'Église catholique. Au cours de cette visite, la délégation a pu rappeler le soutien de l'Église de France à une communauté chrétienne qui a été la cible d'attaques djihadistes meurtrières. Mais depuis 10 ans, la liberté religieuse semble progresser dans le pays, explique Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, ordinaire des catholiques orientaux de France.
Il y a eu certes dans les années passées des attentats contre des églises chrétiennes et cela, ça a été évidemment ressenti comme très douloureux. Mais aujourd'hui, les chrétiens, les catholiques nous ont dit ces jours-ci combien la période paraissait aujourd'hui beaucoup plus facile, notamment dans les relations avec l'État et dans la possibilité que les chrétiens, d'une façon générale, puissent bien exercer au grand jour leur pratique chrétienne. Dans les quartiers nouveaux des villes qui sont construites, l'État réserve toujours un lieu pour que les églises chrétiennes puissent s'installer, construire des églises catholiques et des églises orthodoxes.
En bref, le ton monte entre la Chine et les États-Unis à propos des Philippines. Pékin assure que ses actions en mer de Chine sont légales après des avertissements formulés par Washington, Tokyo et Manille. Donald Trump va témoigner dans le cadre de son procès pénal prévu à partir de lundi à New York. L'ancien président l'a affirmé hier. Il sera jugé pour des paiements visant à obtenir le silence d'une ancienne star de films pornographiques juste avant la présidentielle de 2016.
Décrié pour son impuissance à résoudre les grandes crises actuelles, l'ONU intéresse malgré tout tous les jeunes.
Et oui, Melchior, 250 élèves des lycées publics et privés Berthollet, Saint-Michel, Baudelaire et Tom Morel sont réunis cette fin de semaine en Assemblée générale de l'ONU à Annecy. Chacun incarne un ambassadeur d'un pays et propose des résolutions sur la crise des déchets dans le monde. Yann Andrés s'est rendu hier à l'ouverture de cette session onusienne, pas comme les autres.
L'honneur de déclarer ouverte la session 2024 d'UNICEF. Devant les ambassadeurs de Russie, d'Ukraine, de Grande-Bretagne ou d'Allemagne, Lison n'a pas froid aux yeux. La jeune fille en terminale à Saint-Michel prend son rôle de secrétaire général de l'ONU très à cœur.
On se prend pour un ambassadeur, on se prend pour le délégué. Et c'est ça qui est formidable. Donc oui, c'est du théâtre, mais plus profond encore.
Une assemblée générale fictive composée de 3, 4 ou 5 ambassadeurs par pays. Ils devront trouver un consensus autour de la réduction des déchets. L'Inde et ses décharges à ciel ouvert de 50 mètres de haut sont particulièrement ciblées. Capucine, en terminale au lycée Berthollet et représentante de l'Inde, va déposer une résolution.
C'est important qu'on se fasse aider, surtout par les pays riches, pour pouvoir gérer ces déchets, pour pouvoir les traiter correctement afin d'avoir la meilleure gestion possible.
Capucine pourra compter sur le soutien de Yves Lador, consultant justice climatique auprès des Nations Unies. Ce jeune voix, habitué aux débats feutrés de l'ONU, est séduit par cet exercice de simulation.
Ce que j'aime bien en travaillant très souvent avec des jeunes, c'est que certaines des questions sont d'une telle évidence que nous on a oublié de se les poser et ça fait du bien de se l'entendre rappeler. Et donc ça, je pense que ça joue un rôle tout à fait utile.
Après 2 jours de commission, les résolutions des lycéens seront remontées au secrétaire général de l'ONU qui en prendra bonne note, nous dit-on.
Un reportage, non pas à Annecy, mais à Chambéry de Violaine Ray, RCF Savoie. Un mot de sport, Melchior, pour terminer. Le Paris Basket a décroché hier son premier titre européen après une victoire 89-81 sur le parquet de Bourg-en-Bresse en finale de l'Eurocoupe. Et chez les femmes, en Euroleague cette fois, Villeneuve-d'Ascq décroche un billet pour le Final Four de cette compétition en éliminant Prague 84-78. Enfin, en football, en ouverture hier en Ligue 1, Metz a battu Lens 2-1, 17e au classement. Les Lorrains sont toujours relégables, mais reviennent à égalité de points avec Lorient.